France Info.
La série des Paradise Papers continue, épisode 2 hier soir, à propos du contournement fiscal opéré par de très grandes marques, dont vous utilisez peut-être les produits tous les jours, Apple, Nike, Google, et puis on cite des stars aussi, Lewis Hamilton en Formule 1 ou le chanteur Bono. Alors au-delà des règles fiscales nationales ou européennes, qu'il faudrait donc modifier ou revoir de fond en comble, est-ce qu'on peut aussi agir au niveau individuel, consommateur que nous sommes? Est-ce qu'on a du pouvoir sur ces entreprises-là, ou même sur le comportement des vedettes que nous admirons? On va le demander à nos invités. On est avec Neila Ajaltouni. Bonjour.
Bonjour.
Vous faites partie du collectif de l'éthique sur l'étiquette. Et on est en ligne avec Michel Tally. Bonjour à vous. Michel Tally, est-ce que vous êtes en ligne avec nous? Alors, on a un petit problème de liaison avec Michel Tally qu'on va retrouver dans un instant. On va donc commencer avec vous, Neila Ajaltouni, parce qu'on a l'impression effectivement que ces systèmes-là d'optimisation, d'évasion, même de fraude fiscale, sont tellement complexes que ça nous dépasse complètement. Vous, vous dites qu'on a des moyens d'agir là-dessus.
Oui, c'est vrai que ça semble nous dépasser, mais ce qu'ont fait les Panama Papers précédemment, puis les Paradise Papers, c'est précisément rendre plus concrète une situation qui était jusque-là extrêmement abstraite, celle de l'évasion fiscale organisée et finalement légale. Mais petit à petit, les citoyens que nous sommes commencent à comprendre ces systèmes et la façon dont ils influent dans notre vie, puisqu'on se rend compte que c'est de l'argent public en moins pour le développement et assurer un minimum de services publics. Et évidemment, ce qu'on voit apparaître désormais, c'est de plus en plus d'appels, par exemple, au boycott de ces grandes marques par les consommateurs. Voilà, ce sont des situations que l'on redécouvre, que l'on découvre, mais qui finalement interpellent quand même notre conscience citoyenne.
Oui, effectivement, le boycott, c'est peut-être une option. On va voir quelle efficacité elle peut avoir. On a retrouvé notre second invité, Michel Tally. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat fiscaliste et vous conseillez des multinationales. Vous avez été directeur de la législation fiscale de 1989 à 1995. Est-ce que d'après vous, il est légitime de reprocher à une entreprise de chercher le profit maximal, où que ce soit, puisque finalement, c'est la raison d'être d'une entreprise?
Alors, il faut bien voir que pour une entreprise, l'impôt, c'est un coût comme la facture d'électricité ou les coûts de transport. Et donc, tout gestionnaire d'une usine, d'un magasin, d'une filiale, d'un grand groupe qui a des objectifs de rentabilité va chercher à baisser tous ses coûts. Et évidemment, l'impôt, pour lui, c'est un coût comme un autre. Donc, il va le traiter de cette façon-là. Et lui, il considère en général que sa légitimité, elle est vis-à-vis de ses actionnaires. Et que, effectivement, alors maintenant, on a tout le mouvement sur la responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise. Mais c'est un mouvement récent, jusqu'à peu encore, une entreprise considérait qu'elle avait juste pour objectif de procurer le meilleur dividende possible à son actionnaire. Ah oui. Donc, effectivement, qu'elle cherche à baisser l'impôt, effectivement, ça se comprend. Et à ce moment-là, il faut comprendre une chose, c'est que, contrairement aux particuliers, qui sont taxés dans le pays où ils résident pour tous leurs revenus mondiaux, une entreprise n'est en général taxée que pour l'activité qu'elle a dans le pays. Et donc tout le problème, c'est de savoir comment on définit l'activité qu'elle a dans le pays.
Oui, donc c'est là-dessus, évidemment, que jouent ces entreprises. Michel Tally, Thomas Snegaroff est avec nous. Thomas, vous voulez dire un mot?
Oui, c'est très intéressant ce que vous dites en évoquant l'impôt comme un coût uniquement parce que l'entreprise bénéficie aussi largement de l'impôt. Je rappellerai juste la théorie de Michel Fitoussi, l'économiste, sur la mission d'interposition de l'État. L'État y finance la formation des gens qui seront vos salariés par l'école publique. Il y a des routes que les FMN utilisent, il y a les services postaux, il y a Internet, etc. Ouais. Tout ça, ce sont des choses nourries par l'impôt. Donc dire que l'impôt n'est qu'un coût, c'est certainement ne voir qu'un aspect du sujet. Hein.
Michel Tally.
Oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, quand je dis que ce n'est qu'un coût, c'est parce que, effectivement, les impôts financent tous les services publics, mais il y a eu forcément pour tout contribuable, qu'il soit un simple particulier ou une entreprise, une dichotomie entre ce qu'il reçoit et ce qu'il doit payer. Et tout individu ou société normalement qui raisonne se dit, le service je l'ai de toute façon, je vais essayer de le payer le moins cher possible.
Ouais, alors,
Les gens qui sautent par-dessus les tourniquets de la RATP, ils sont exactement dans la même situation. Hein.
Oui, il n'y en a peut-être pas tant que ça non plus, mais Neila Ajaltouni...
Des resquilleurs, il y en a partout.
Non, mais il y en a bien sûr, je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout. Quand vous entendez ça, alors l'impôt est un coût comme un autre, le référent ce sont les actionnaires, vous trouvez que c'est du cynisme ou qu'il y a une logique là-dedans?
Non, c'est un vrai cynisme, mais surtout la réalité ne souffre pas la comparaison entre un contribuable lambda et une multinationale qui précisément bénéficie par un système organisé d'évasion fiscale, d'appui de sociétés dont c'est le métier de faire cette optimisation fiscale. Donc les deux situations sont absolument incomparables. Comment expliquer au contribuable qu'il doit payer ses impôts, à quoi sert l'impôt, si parallèlement ceux qui sont les plus puissants dans l'économie mondialisée notamment ne payent pas, ne sont pas redevables aux yeux de la société. Donc c'est évidemment ce déséquilibre qu'il faut à tout prix, auquel il faut remédier par la loi, puisque précisément les multinationales ne s'autorégulent pas et que la recherche de profit n'est pas toujours compatible avec l'intérêt général. Toute notre action, c'est précisément de faire en sorte que toute entité économique, tout acteur économique, et les entreprises multinationales en font partie, soient redevables et contribuent à l'intérêt général. Leur dû, c'est de payer l'impôt et surtout de ne pas être aidé là où on demande aux contribuables finalement de s'en acquitter. Quoi.
Michel Tallier, je voulais juste d'abord préciser que vous n'êtes pas le porte-parole des multinationales. Hein, on ne vous met pas du tout dans ce rôle-là.
Je suis même à la retraite dans 6 semaines.
Bon, franchement, mais vous connaissez très bien le système.
Comme je les pense, pas parce que.
Vous connaissez très bien le système et vous nous l'expliquez aujourd'hui. Est-ce qu'on peut imaginer instiller une dose de morale, puisque c'est de ça qu'il s'agit à l'intérieur des grands groupes?
Ça, c'est la question, parce que madame, tout à l'heure, a dit une chose très importante. Elle a dit, nous essayons et il faut mettre fin à tout cela par la loi. Alors que vous venez de dire par la morale. Et c'est là que moi, je m'insurge, parce que pour moi, l'état de droit, ce n'est pas l'ordre moral. C'est-à-dire que c'est à la loi d'empêcher les comportements qu'on veut éviter. Ce n'est pas en faisant honte aux gens, le name and shame par exemple, pour moi, c'est le contraire de l'état de droit. Parce que si jamais on s'est trompé, ben, le mal est fait. Et donc, c'est effectivement la loi, et c'est pour ça que le problème, il est chez les États. Et d'ailleurs, très récemment, je voyais une interview de Pascal Saint-Amand, le patron de la fiscalité au CDE, qui redisait que le sujet, il est politique parce que c'est au gouvernement.
Oui.
Parce que les mêmes gouvernements qui vous disent des phrases aussi plates que il faut que chacun paye là où il réalise des profits, sauf que la difficulté c'est que justement c'est de définir là où il réalise les profits.
Oui, ce sont les mêmes qui tolèrent le système existant. Michel Tallier, on va poursuivre sur ce sujet. Vous restez en ligne avec nous. Neila Jaltouni également, notre invitée. On reprend cette discussion dans 2 minutes.
France Info.
Nous, consommateurs, que pouvons-nous faire si nous souhaitons agir contre les entreprises qui sont épinglées en ce moment pour leurs pratiques fiscales dans le cadre des Paradise Papers? On en parle avec nos invités Neila Jaltouni du collectif L'éthique sur l'étiquette et Michel Tallier qui est en ligne avec nous, avocat fiscaliste qui conseille justement des multinationales. On évoquait, Neila Jaltouni, l'option du boycott. Certains appellent au boycott des produits des entreprises qui sont épinglées pour leurs pratiques fiscales. Est-ce qu'on a un exemple de boycott qui a déjà fonctionné efficacement contre une entreprise ?
Nike, précisément, a fait l'objet du premier boycott dans l'histoire de la lutte anti-sweatshops après la divulgation en 1996 par le magazine Life aux États-Unis de photos montrant des enfants pakistanais qui cousaient pour quelques cents de l'heure des ballons. Donc, monsieur évoquait tout à l'heure la responsabilité sociale d'entreprise. Ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas une mode. C'est précisément parce que la loi n'est pas suffisamment présente. Et donc, les entreprises ont fait de la responsabilité sociale à la demande des consommateurs.
Mais
il y a eu un boycott, effectivement.
Et ça a cessé ?
Ça n'a pas cessé. Ça a quelque temps touché le portefeuille de Nike qui s'est défendu par une riposte un peu marketing avec des codes de conduite, des mesures volontaires. Précisément, 20 ans après, ces mesures volontaires, on se rend compte qu'elles ne suffisent pas. Et en même temps, le boycott, c'est aussi l'arme la plus, je dirais, intuitive du consommateur, mais aussi du citoyen. C'est aussi une réaction autant en termes de consommateur que politique aussi, également.
Et
parce que finalement,
aussi, ouais.
Politique, dans la mesure où son acte de consommation peut être un acte politique. Et effectivement, c'est aussi la dernière arme, je dirais, à la portée du consommateur. Nous, ce qu'on prône parallèlement, c'est de continuer de maintenir l'interpellation sur ces grands groupes et pour un renforcement de la législation.
Michel Tallier, ces entreprises-là, elles sont sensibles à des boycotts, à des comportements comme ça de la part des consommateurs ?
Et de toute façon, c'est vrai que, comme on vient de rappeler là, le mouvement sur la responsabilité sociale d'entreprise, il ne fait que commencer et il ne fera qu'augmenter, que ce soit sur le droit du travail, que ce soit sur tout un tas de sujets. La seule chose que je disais, c'est que En appeler à la responsabilité sociétale, c'est le rôle normal d'organisme privé. Une ONG est dans son rôle quand elle fait ça. Ce que je ne supporte pas, c'est quand les hommes politiques, par gesticulation ou par démagogie, tout ce que vous voulez, font un sujet moral.
Voilà, alors c'est pas exactement le sujet. Hein. Ma question était, est-ce que ces entreprises-là craignent d'être boycottées par les consommateurs, d'après vous, ou pas du tout ?
Ça paraît évident. Enfin, disons que jusqu'ici, effectivement, les mouvements ne se sont révélés efficaces puis sur des sujets à fort contenu émotionnel, comme effectivement le travail des enfants, des choses comme ça. L'impôt, pas encore, mais ça viendra. C'est-à-dire que, en fait, ils ne commenceront à regarder ça que lorsque ça pourra vraiment les toucher par des baisses de chiffre d'affaires significatives.
D'accord.
Et puis il y a aussi tous ceux qui ont besoin aussi de passer par des appels d'offres parce qu'ils travaillent pour les pouvoirs publics. Ceux-là, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir une mauvaise réputation.
Oui, parce qu'il y a des moyens de rétorsion. Néla Jaltouni, vous l'ajoutez un mot.
Trahison, on ne peut pas ignorer le poids du pouvoir économique sur le pouvoir politique. Je pense qu'il y a cette séparation là aussi, puis ce renversement qu'il faut évoquer. Il n'est pas si facile de réguler quand des multinationales sont aussi puissantes qu'elles ont la capacité de faire pression sur des États. Donc là, il y a aussi un signal à avoir de la part de ces grands groupes qui est de dire nous respecterons la loi. On ne les attend pas à ce point sur cette réaction, mais n'ignorons pas quel poids elles peuvent exercer aussi sur les pouvoirs publics.
Thomas Negarov, je me tourne à nouveau vers vous parce que finalement, l'évasion fiscale, bah c'est aussi vieux que les impôts.
Ouais, dans l'Athènes déjà démocratique et antique, les riches s'accusaient mutuellement de se soustraire à l'esphora, l'impôt exceptionnel payé par les plus fortunés, comme un signe de manque de civisme. Tiens, on en parlait il y a un instant. Ouais. Ce que l'on peut aussi reprocher aux entreprises et aux particuliers visés dans les Paradise Papers.
Les paradis fiscaux, par contre, ça c'est beaucoup plus récent.
Alors s'il y a des traces au XVIIe siècle, il faut attendre la crise des années 30 pour noter le premier développement réel, en particulier dans les Caraïbes, quand les fraudeurs fiscaux s'installent aux Bahamas et à Panama pour échapper au fort taux d'imposition fixé par Roosevelt sur les riches et les entreprises.
Et puis, autre étape de développement de ces paradis fiscaux, ce sont les 30 Glorieuses.
Oui, la période dans laquelle on est aujourd'hui, hein, c'est dans les années 60, lorsque dans un contexte de concurrence de plus en plus internationale, les entreprises voient leurs bénéfices se tasser en raison d'une baisse de la productivité, mais pas des salaires. C'est ce qu'on appelle la crise du Fordisme. Mais les entreprises cherchent des moyens de se soustraire aux taxations. En somme, une réponse à la crise du capitalisme. Le phénomène des paradis fiscaux prend de l'ampleur. Un journaliste économique leur consacre même un livre dès 1968, il y a quasiment 50 ans, ces propos pourraient être entendus aujourd'hui sur l'antenne de France Info.
Il y aurait des paradis sur Terre ?
Mais oui !
Ça tombe bien.
Alain Vernet, qui est directeur des services financiers bourse du journal Les Échos, a passé 15 ans de sa vie à peu près à rechercher sur la Terre entière ces paradis fiscaux. Mais où sont ces paradis, Alain Vernet ?
Un peu partout et au bord des continents, dans des pays petits et oubliés. L'évasion fiscale est fort pénible aux États qui en sont victimes, mais cela consiste à utiliser les lois des autres, la légalité d'autrui.
Ah oui, la légalité, donc rien d'illégal, effectivement.
Et précisément à ce moment-là, un paradis fiscal dont on parle beaucoup ces jours-ci, né en Europe, un sujet lui est consacré en 1987 sur FR3.
Sur cette île de 60 000 habitants sur 500 km². Paradis de la finance, son statut fiscal incite largement les hauts revenus et les entreprises financières à s'installer sur ces terres.
Alors cette île, vous l'avez reconnue, hein, c'est l'île de Man, coincée entre l'Irlande et la Grande-Bretagne, qui avait trouvé dans le paradis fiscal un avenir après l'effondrement du tourisme des années 60. L'île de Man abriterait depuis le 9e siècle et sans discontinuer le plus vieux parlement du monde, le Tynwald. Ironique pour une île aujourd'hui pointée du doigt pour être l'un des symboles du contournement des lois et de la dilution des États.
Alors on parlait avec nos invités des entreprises, Michel Talley, Neila Jaltouni, mais un mot quand même des vedettes qu'on a citées, Lewis Hamilton, Bono, le chanteur de YouTube. À ce niveau-là, qu'est-ce que vous pouvez préconiser, Neila Jaltouni ? Il faut arrêter d'acheter les disques de YouTube et de regarder les courses de Formule 1 ?
Parce qu'il faut surtout continuer à questionner et demander en effet qu'on puisse plus contourner ces lois. Enfin, même en question de contournement, on est ici dans un système légal. Hein. C'est un peu la difficulté, ce que montrent les Paradise Papers. Donc, d'autant plus besoin que l'autorité publique intervienne. Je pense que pour une partie, certains ne savent même pas finalement qu'ils ont des intérêts dans ces paradis fiscaux, et c'est précisément le problème. C'est ce qu'on pointe. De la même manière qu'on pointe que les multinationales ne savent pas où est-ce qu'elles font produire leurs produits, par exemple, c'est précisément ce qu'on leur reproche et ce qui relève de leur responsabilité. Donc tout cela nécessite en fait davantage de régulation, et une régulation contraignante qui sanctionne enfin les personnes qui y contreviennent.
Merci beaucoup. Merci Neila Ajaltouni du collectif L'éthique sur l'étiquette. Et merci à vous Michel Talley, avocat fiscaliste en ligne avec nous. Thomas Snegaroff, évidemment historien de la rédaction de France Info.